Voilà, mon message, je l'ai intitulé les mystères du Saint-Esprit. C'est vrai que dans les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est le plus mystérieux, au sens, on voit bien le Père qui représente le Père naturel, voilà, on peut se l'imaginer, le Fils. Voilà, c'est quelque chose qui est intuitivement compréhensible, et surtout quand on voit tous les échanges qu'il y a dans la parole de Dieu entre le Fils et le Père, etc. Le Saint-Esprit, on le voit apparaître sous forme évidente mais mystérieuse, et je voudrais lever un peu le voile sur ce mystère, et je vous invite à la prière. Seigneur, merci de nous accorder ta grâce, ta révélation, pour que ce message puisse parler à nos cœurs et nous aider, Seigneur, à voir plus clair, Seigneur, dans ta parole, par rapport au Saint-Esprit. Et que, Seigneur, cette révélation puisse nous encourager, Seigneur, à aller de l'avant dans notre vie spirituelle. Te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le don du Saint-Esprit amène aussi des manifestations, on appelle ça des charismes. Et c'est pourquoi notre Église aussi fait partie du mouvement charismatique. Charismatique, c'est mettre l'accent sur le Saint-Esprit. Il y a les églises historiques, je parle des protestants, historiques, voilà, qui sont sur la parole, les cinq solas, hein, sola scriptura, l'écriture seule, etc. Et les charismatiques ou pentecôtistes qui, à travers une expérience forte du Saint-Esprit dans les années 1905 du siècle dernier, ont permis de remettre en lumière, en fait, les manifestations de l'Esprit qui peuvent être manifestées dans l'Église par toutes sortes de choses spectaculaire au sens de miraculeux, que ce soit des guérisons, que ce soit des visions, que ce soit des songes, et on va en parler. Nous sommes dans cette mouvance. C'est pas une mouvance facile, parce que si on reste dans le protestantisme classique, en fait, on est un peu dans une rationalité qui permet certaines limites plus facilement identifiable, et qu'on peut, dans une église, eh bien, mieux maîtriser. Le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'il peut se manifester de différentes manières, et il faut beaucoup de discernement pour séparer ce qui vient de la chair, ce qui vient de l'esprit, comme vous le savez. Et s'il n'y a pas ce discernement, eh bien, il y a souvent des débordements qui ne vont pas dans le bon sens. Le Seigneur Jésus, quand il est parti, il a dit « Vous ferez des choses que moi », donc plus de choses, pas forcément plus grandes, certains disent plus grandes, mais plus de choses que moi, grâce au Saint-Esprit. C'est tout simple, hein, faut pas chercher non plus midi à 14 heures. Jésus, il a opéré pendant 3 ans. Le christianisme, ça fait plus de 2000 ans qu'il existe, et il y a beaucoup, une nuée de témoins qui ont exercé les ministères du Saint-Esprit. Donc il y a plus de choses, ne serait-ce qu'en quantité. Pas forcément en qualité, mais en quantité. Et puis le Saint-Esprit est le même. Que ce soit le Saint-Esprit qui est venu sur Jésus au moment de son baptême, ou qui vient sur nous, c'est le même Esprit de Dieu. Sauf qu'on verra tout à l'heure qu'il faut exercer certaines choses pour qu'on reste uniquement sur ce que le Saint-Esprit veut faire. Alors j'évoque quelques mystères pour vous montrer qu'effectivement, le mystère, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas forcément, qu'on comprend intuitivement, qu'on devine, et qui peuvent être différents les uns des autres. Et c'est ça qui est un peu compliqué dans une église charismatique, où chacun peut comprendre des choses à sa manière, et s'il n'y a pas de communication, justement j'en parlais aussi encore avec Charles, quand il n'y a pas de communication, une bonne communication, eh bien il y a une interprétation différente et il peut y avoir incompréhension. Certains mystères de la Bible sont, par exemple, comme celui de la Trinité, hein, j'en ai parlé hier, puisque il est dit dans la parole que l'homme est fait à l'image de Dieu. C'est quoi cette image de Dieu ? On cherche une image de Dieu. Rien que la communauté des trois personnes de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est une communauté, c'est une personne en trois personnes. Bon, c'est un mystère, mais n'empêche que c'est une communauté qui échange, qui communique, où il y a des relations entre ces trois personnes. Hier, on en a parlé pendant le séminaire. Eh bien, nous, on est à l'image de Dieu. Donc la communauté, bien sûr, on est plus aujourd'hui que trois, mais c'est le modèle qui compte, le modèle que Dieu nous donne. Et dans une famille, ça peut être trois, père, la mère et un enfant, par exemple, qui est vraiment l'image de ce que nous devrions être dans une famille, comme la famille de Dieu dans cette Trinité. Donc les mystères sont peut-être mystérieux, mais en même temps signifiants. Ils signifient quelque chose qu'on peut suivre pour appliquer concrètement dans notre vie. Voilà. Et donc, ça ne reste pas mystérieux quand on les applique, et il faut les appliquer. Et moi, je l'applique, particulièrement dans la vision, pour atteindre ce phare dont on parle, par une approche communautaire, où tous les ans, la communauté est impliquée pour faire un choix d'un plan d'action sur une année. Et je montrais hier ceux qui étaient là que pendant 23 ans, eh bien, j'ai conduit la communauté de cette manière-là et on va continuer à le faire pour que toute la communauté puisse participer à ces choix d'action qui vont être développés sur une année à partir d'un plan d'action. Et du coup, on peut aller dans la direction sans se perdre, sans changer de direction au passage, si c'est la direction de Dieu que Dieu nous a donné, eh bien, on ne va pas changer. Dieu ne change pas toutes les 5 minutes. Hein. S'il a appelé quelqu'un, quelque chose, eh bien, il va jusqu'au bout de l'appel. Et c'est ça qui nous donne la stabilité et la maturité chrétienne. Donc, c'est un mystère. Il y a un autre mystère, par exemple, où, si on fait des calculs dans la Bible, 235 ans ont séparé Adam et Ève, hein, de la chute, avec les premiers hommes qui ont commencé à prier Dieu. Oui. Pendant 235 ans, Dieu, il a toujours appelé l'homme à lui, mais l'homme ne s'est pas soucié de Dieu. Un peu comme aujourd'hui, j'en parlais à Jérôme hier, hein, il y a une insouciance. Les gens, enfin, en tout cas les Français, ne s'intéressent pas à Dieu, hein, comme si Dieu n'existait pas. Eh bien, déjà, entre Adam et Enoch, donc Genèse 4, 2, je lis, Seth, c'est le troisième fils qui a été donné à Adam et Ève après la mort d'Abel. Donc il y a Abel, non, il y a Caïn, Abel et Seth. Et Seth eut aussi un fils qu'il appela Enoch. Et c'est à cette époque-là qu'on a commencé à prier l'Éternel. Donc vous voyez, pendant 235 ans, il n'y a pas eu de souci de prier Dieu. C'est quand même incroyable. À l'origine de l'humanité. Un mystère. Qu'aujourd'hui, les Français ne se soucient pas de Dieu, on peut le comprendre, parce que il y a eu la Révolution, il y a eu les Lumières, il y a eu la science, enfin bref, il y a eu le catholicisme et tout ça. J'en passe, et des meilleurs. Mais tout de suite après Adam, eh bien, les hommes ne se sont pas souciés de Dieu. Vous voyez, c'est quelque chose qui est ancré au fond de l'être humain, cette insouciance, cette indifférence par rapport à Dieu. Et c'est Enoch, à cette époque-là, qu'il a commencé. C'est un mystère. C'est quand même mystérieux qu'une créature qui vient d'être créée par Dieu ne se soucie pas de son créateur. Deuxième mystère aussi, que rapidement j'évoque, c'est 1000 ans après Adam, à peu près, hein, 1000 ans, Moïse a parlé avec Dieu face à face. Alors qu'Adam parlait face à face avec Dieu. Dans le jardin, Et tous les jours, il y avait une rencontre face à face entre Adam et Ève et Dieu. Il y avait une communion. Et il a fallu attendre 1000 ans pour que quelqu'un, et encore Moïse face à face, mais de dos, hein, mais il y a eu une rencontre spéciale que Moïse a eue parce qu'il a eu un appel pour créer le peuple d'Israël. Puis il y a eu l'attente d'assignation. L'assignation, ça veut dire que le peuple est appelé à l'attente de la rencontre pour rencontrer Dieu. Et là, c'est uniquement le souverain sacrificateur, puisqu'il y avait des sacrificateurs qui officiaient chaque jour dans le lieu saint. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et les sacrificateurs officiaient tous les jours, puisque c'était des lévites, mais il n'y en avait qu'une fois par an où le souverain sacrificateur avait le droit de rentrer. Et attention, il était attaché à une corde. Parce que s'il ne rentrait pas dans les conditions requises de purification, etc., il mourrait immédiatement. Et personne ne pouvait rentrer, sinon il y avait des cadavres sur des cadavres. Donc il tirait le cadavre à l'extérieur pour s'en sortir. Voyez. Donc vous voyez, la sainteté de Dieu, on ne joue pas avec ça. Entre l'homme pécheur et Dieu, il y a un gouffre, et en même temps, il y a une proximité que Dieu veut avec l'être humain. Il est dit qu'au grand jour des propitiations, donc voilà, pour apporter le péché du peuple, le souverain sacrificateur devait passer par le lieu saint, depuis le parvis, pour arriver dans le lieu très saint à travers le voile. Il y avait un voile. Et là, il faisait l'aspersion du sang pour le sacrifice des péchés. Ce voile, il a été déchiré au moment de la croix. C'est le voile, c'est la chair de Jésus qui a été enlevée. Et avec Jésus, ce voile qui est enlevé, déchiré, nous avons encore plus de privilèges que toutes ces personnes de l'Ancien Testament, que Moïse. Nous avons encore plus de privilèges que le souverain sacrificateur. C'est que le mystère, c'est que nous sommes l'attente. Nous n'avons pas besoin de devenir l'attente. Ce matin, vous êtes venu dans le temple que nous sommes ici. Mais le temple, c'est un lieu qui vous accueille. Mais vous êtes le temple. Vous êtes l'attente. C'est-à-dire que vous êtes venu vous-même avec la présence du Saint-Esprit en vous pour venir ici. Et c'est pour ça le temps de louange, moi je considère qu'il est très très important, parce que c'est le seul moment du culte où vous vous exprimez. Hein. Là, moi je m'exprime tout seul, vous écoutez. Mais au culte, à la louange, vous vous exprimez tous pour chanter des chants à la gloire du Seigneur, etc. Et pour moi, j'ai toujours eu du mal à comprendre que certains chrétiens viennent en retard et tout ça. Ça peut arriver, le retard. Un retard systématique ou une participation à la louange, c'est du non-sens. C'est du non-sens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont l'attente. Et que le Saint-Esprit en eux soupire à se relier avec les autres frères et sœurs pour ensemble élever le nom du Seigneur. Voilà donc un mystère. C'est que nous sommes l'attente d'assignation. Et nous avons des privilèges qui sont au-delà de tout ce que, dans le passé, le Seigneur a donné à ses enfants. Et Dieu donne en plus, non seulement le Saint-Esprit, mais il donne des dons pour nous équiper pour faire avancer le royaume. Alors, il y a un objectif, c'est de faire avancer le royaume de Dieu. Il ne donne pas des dons pour nous glorifier. Il ne nous donne pas des dons pour nous enrichir. Ou je ne sais pas, hein, bon. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais certains pasteurs ont dit, des gens, quand ils donnaient des prophéties, ils ont dit, Dieu m'a montré qu'il faut que tu me donnes ton piano à queue. Bon, voilà, certains qui avaient des choses. Bon, non, ça, ce n'est pas des dons du Saint-Esprit. C'est, voilà, je veux, moi, ce que je veux, et j'utilise les dons. Donc, les dons de l'Esprit, c'est pour faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Vous dites amen. Voilà. Vous connaissez tous Joël, c'est un petit prophète, hein, et Joël est cité dans les Actes des Apôtres par l'apôtre Pierre, et au verset 16, il dit « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. » Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est Pierre qui rappelle, au moment où le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, ce que Joël avait prophétisé qui arrive maintenant, et dans des temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a été donné, et des dons nous sont donnés pour que nous puissions les exercer. Alors, quelle est la base des mystères? Alors, comme c'est des mystères, il faut savoir comment naviguer dans ces mystères pour ne pas se perdre, un peu comme on appelle ça, les labyrinthes, voilà. Vous savez, les labyrinthes, il y a des jeux maintenant vidéo, là, les labyrinthes, faut trouver l'issue, etc. Voilà. Donc, c'est pas des labyrinthes, les mystères, si on sait comment utiliser et comment fonctionner dans ces mystères du Saint-Esprit. Alors, Dieu parle, comme l'a dit Joël, par des visions, par des rêves, par des songes. On va regarder tout à l'heure pourquoi il le fait. Il y a un pourquoi. Moi, j'aime bien les pourquoi. Why? Pourquoi c'est comme ça? Parce que Dieu donne. Dieu nous met dans ses confidences. Il nous met pas dans des interrogations permanentes où il n'y a pas de réponse. Il y a des réponses. Il faut les chercher. Parce que dans les rêves, il y a des symboles. Il y a un symbolisme. C'est très subjectif. Suivant une personne ou suivant une autre, ça peut être des symboles différents. Quand je dis symbole, par exemple, je ne sais pas, vous voyez dans vos rêves une personne qui apparaît, eh bien, ça peut être le symbole de votre famille, par exemple. Pas forcément une personne spécifique, mais famille ou quelqu'un que vous allez rencontrer, voyez-vous. Donc il faut détecter, quand vous avez des rêves ou des songes, quel est le symbolisme, parce que c'est dans, il faut chercher le sens complet de la vision. C'est pas des allégories. Les allégories, vous savez, par exemple, Marianne, la Marianne de la France, c'est une allégorie. C'est-à-dire, c'est une femme où tous les objets ont un sens. C'est une fabrication symbolique. Mais voilà. Est-ce que les symboles dans la Bible, comme les paraboles, c'est un sens qui vous est communiqué? Mais il faut décortiquer un petit peu le sens général. C'est ça qui est le plus important. Mais c'est très subjectif. Il y a un langage pour les symboles et pour interpréter les rêves. Il y a des principes d'interprétation aussi. Et ça, il faut les apprendre. Dans Proverbes, chapitre 25, verset 2, il est dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Il faut qu'on devienne des rois et des reines, c'est-à-dire des personnes qui gouvernent leur propre destinée, qui gouvernent l'appel qu'on a reçu, qui gouvernent l'appel d'une communauté. Et donc, il faut chercher à sonder les choses. Moi, j'aime bien sonder les choses. Et dans cette nouvelle saison que nous sommes en train de vivre dans l'Église, le Seigneur veut lever des leaders qui sondent les choses. Pas simplement qui viennent assister à quelque chose, mais qui viennent participer. Et il faut sonder les choses. J'aime bien la catégorie juive d'un enfant intelligent. En fait, pour les Juifs, l'enfant intelligent, c'est pas celui qui sait tout. Comme une encyclopédie, vous appuyez dessus, il répond, etc. Non, c'est l'enfant qui pose des questions. Ça veut dire qu'on ne sait pas tout. C'est-à-dire que l'enfant est dans l'humilité de dire « je peux encore apprendre autre chose ». Et ça, c'est sonder les choses. Et donc le Seigneur veut que nous puissions sonder, d'autant plus que ce sont des mystères. Et surtout, ce qui est important, c'est l'application des rêves. Parce que si Dieu donne des rêves, des songes, des visions, etc., ce qui est la particularité des dons du Saint-Esprit qui nous sont donnés, et que prophète Joël a prophétisé, eh bien, il faut savoir les appliquer, sinon ça ne sert à rien. Si on n'applique pas ce que Dieu nous dit dans ces temps mystérieux, eh bien, on a tout faux. L'école du phare, puisque le phare est aussi une école de formation, je montrais un module de formation à l'interprétation des rêves. Je suis moi-même au bénéfice de John Paul Jackson qui a écrit, qui a monté un ministère de silo, le ministère de silo. Je suis loin de ses capacités d'interprétation, mais j'ai compris certaines choses et j'ai surtout des livres qui l'expliquent, qui expliquent comment et tous ces principes et tous ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Lui, par exemple, il a une école, maintenant il est mort, hein, mais en fait il avait une école dans laquelle il formait des étudiants et pour mettre en pratique ce qu'il leur apprenait, il allait dans les aéroports. Bon, l'aéroport, il y a beaucoup de monde. Et il mettait une petite table, comme ça, avec un petit papier, en disant, nous interprétons vos rêves. Voilà. Et là, il y a des gens qui viennent, même des PDG, vous savez, grandes sociétés, avec complet veston, machin, etc., qui viennent en disant, ah, vous interprétez les rêves. Je dis, oui, on interprète les rêves. Et, ah oui, mais moi, il y a 40 ans, quand j'étais petit, j'ai eu un rêve et je n'ai toujours pas la réponse à mes rêves. Et en fait, il lui expliquait, au travers de ses principes, ce que Dieu voulait lui dire. Et la personne se convertit, se donne à Christ et puis devient un chrétien engagé, etc. Parce qu'en fait, au travers de ça, il y a un enseignement de la manière dont Dieu parle. Parce que Dieu parle au travers de cela. Donc, je ne vais pas aller jusque-là, parce que je n'ai pas cette prétention de vous former à aller dans les aéroports et puis d'interpréter les rêves. Mais voilà, c'est une école, l'école de Silo, qui est encore actuelle, elle est sur Internet, qui forme ce genre d'évangélisation, évangélisation de puissance. Michel et moi, nous avons pu assister à des manifestations mystérieuses, avec quelqu'un qui est là sur la photo, c'est le dernier en date, c'est John Wimber. John Wimber, qu'on a pu aller dans ses séminaires dans les années 90. On a vu des choses incroyables, comment Dieu, aujourd'hui encore, utilise la communauté, l'Église, parce qu'il n'y avait pas que lui, il y avait toute l'Église dans laquelle il était, et je l'ai visité à Anaheim, en Californie, et c'était vraiment authentique. Il nous a introduit dans cette évangélisation de puissance, qu'on appelle de puissance. Il a écrit un petit livre qui s'appelle « Allez guérissez ». Allez guérissez. Quand il nous avait instruit sur le royaume pendant une heure de théologie, il s'est placé comme ça. Il a dit « Saint-Esprit, viens ». C'est tout. Et il attendait. Et alors là, c'est incroyable ce qui se passait. C'est incroyable. C'est tout. Il avait la foi. C'est une question de foi. Si vous avez la foi que le Saint-Esprit va agir, il va le faire. Vous n'avez pas besoin de hurler. Il n'a jamais, jamais monté de décibels, il n'a jamais fait quoi que ce soit. Parfois, il se mettait au piano parce qu'il jouait 16 instruments, donc c'était un grand musicien. Et parfois, il y avait une louange, simplement. Et simplement, Saint-Esprit vient, c'est tout. Et on attendait. Et alors là, il y avait des choses incroyables. Se passait. Je n'ai pas le temps de vous raconter tout ça. Des manifestations de puissance, des signes, des prodiges, des guérisons miraculeuses, des personnes religieuses qui sont devenues des confessants, etc. Des résurrections de morts. Nous, on ne les a pas vus, mais des résurrections de morts, tellement qu'ils devaient discerner pour qui prier. Des tremblements de terre pour prouver effectivement que Dieu allait faire des choses, etc. Bon, il y a quelques années encore qui se sont passées. Et des paroles de connaissance. Moi-même, j'étais au bénéfice parce qu'il y avait des prophètes qui étaient là, et à la fin des temps, disons, de commun qu'on avait, il y avait des ateliers après l'après-midi. Eh bien, il y avait un prophète que je suis allé voir. Je suis tombé sur n'importe qui parce qu'il y avait une dizaine de prophètes, sur Brentrou. Et Brentrou m'a dit des choses sur moi, jamais vu ni d'Ève ni d'Adam. Des choses d'une précision remarquable. On a encore la cassette d'enregistrement. Et sur cette église, ce qui allait arriver, et comment on allait l'acheter, et comment il fallait faire, et la méthode, etc., etc., etc. Nous, l'église, on est au bénéfice de ces ministères prophétiques, qui sont d'une précision absolument remarquable. Voilà, parce que le Saint-Esprit est toujours là, et ça, c'est pas il y a un siècle. Il y a Bien sûr, il y a eu des combats après, de déviation de ces choses-là. Il y a eu Toronto, il y a tout un tas de choses qui ont fait que ça a été mélangé. Voilà. Mais nous, on a vu l'authentique. Et l'authentique, c'est encore quelque chose qui. Et moi, je voudrais qu'on puisse voir ça dans l'Église. Il y en a qui voudraient voir ça dans l'Église? Ouais. Eh oui. Ben, il faut y croire. Il faut y croire et se donner les moyens. Les moyens, mais les moyens, ça passe par la prière, ça, je peux vous le dire, parce que là, c'est un homme de prière, c'est un homme qui est de la parole, et il faut payer le prix. Vous voyez, une grande différence qui a eu lieu entre avant la venue du Saint-Esprit, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'Église, hein. C'est que quand Jésus est mort, il a dit aux disciples, vous attendez. Vous attendez. Pâques et Pentecôte, il y avait 49 jours, donc 50e jour, puisque Pentecôte veut dire 50. Donc il y avait 49 jours, donc 7 fois 7, qui séparaient la Pâque de la Pentecôte, c'est-à-dire de la venue du Saint-Esprit. Et là, ils ont attendu dans la chambre haute jusqu'à la venue du Saint-Esprit. Et là, c'est l'ère de l'Église qui a commencé. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous sommes devenus, et nous sommes aujourd'hui, la tente. Il n'y a plus besoin de lieu. Nous sommes la tente du Saint-Esprit, la tente d'assignation. Regardez ce qui s'est passé juste avant, quelques jours avant la venue du Saint-Esprit. Il n'y a pas longtemps, quelques jours avant, les disciples entre eux, eh bien, ils avaient des discussions oiseuses, hein, mais des discussions sérieuses. Sur qui va être le plus grand? Parce qu'en fait, pour eux, Jésus, c'était le Messie, c'est évident. Mais c'était un Messie qui avait la puissance, qui avait l'autorité, qui allait leur donner la victoire, qui allait, etc. Voilà. Et donc, ils cherchaient à être le plus proche du Messie. Donc, leur discussion, c'était qui sera à droite et à gauche de Jésus? Voilà. Voilà le genre de discussion qu'ils avaient, voyez-vous, avant la venue du Saint-Esprit. Jésus, par exemple, a dû dire à Pierre, alors qu'il venait de donner une révélation sur l'Église, où il a dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et tout de suite, quelques minutes après, il a dit, arrière de moi Satan, à Pierre, à Pierre. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit pour réaliser que Jésus devait mourir. Pour lui, il ne devait pas mourir. Un Messie ne meurt pas. Sinon, c'est plus un Messie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À part Marie et Jean, ils se sont enfuis à la croix. Ils se sont enfuis. Ils se sont débinés, comme on dit. Okay, hein? Parce qu'ils avaient la trouille. Voilà. Ils n'avaient pas la capacité de résister à l'épreuve. Et par exemple, quand il y a eu les pains et les poissons que tu distribuais, rappelez-vous, il y a eu 12 paniers qui sont restés. Eh bien, ils n'ont pas compris que c'est le reste. C'est eux, les 12, qui allaient démarrer, en fait, l'Église. Ils n'ont pas compris. Quand on n'a pas le Saint-Esprit qui agit en nous, on ne comprend pas certains mystères. C'est des mystères, mais ils n'ont pas compris. Et regardez ce qui s'est passé au moment de la Pentecôte. Juste un instant après la réception du Saint-Esprit. Eh bien, ils ont jeûné et prié. Ils n'ont pas discuté qui va être le plus grand. Ils ont jeûné, ils ont prié. Tout à l'heure, je parlais de la prière, mais le jeûne, c'est pareil. ceux qui veulent se donner les moyens pour voir des miracles et des puissances, ils jeûnent, ils prient parce qu'ils croient à ce qu'ils prient. Voyez-vous. C'est une preuve de la conviction avec laquelle on prie. Ensuite, Pierre prêche à 3000 personnes à la fois. Sans parler des enfants, et c'est bien plus nombreux que 3000. Eh bien, il prêche sans micro, sans rien. Il prêche à 3000 personnes avec une audace, une autorité qui n'est d'égal que parce qu'il avait le Saint-Esprit en lui. Ils sont devenus des martyrs. Ils sont devenus des martyrs. Ah, ils ne se sont plus préoccupés qui va être le plus grand. Ils se sont préoccupés pour servir le Seigneur. Et même Pierre a dit, je ne veux même pas être crucifié comme mon maître. Et ils l'ont crucifié à l'envers. Parce qu'ils avaient le respect de leur maître. Ils étaient complètement remplis d'un autre esprit. Et même l'ombre des apôtres guérissait les malades. L'ombre. Pour montrer à quel point le Saint-Esprit était en eux pour faire ces choses. Est-ce que vous n'avez pas envie de voir ça? Ben, c'est à notre disposition. Nous sommes des chrétiens qui avons le Saint-Esprit, mais on va voir pourquoi il y a des blocages pour ne pas y arriver. Alors, il y a des songes et des rêves aussi prémonitoires, c'est-à-dire qu'ils vous préviennent de certaines choses qui peuvent vous arriver, etc. On va prendre quelques exemples. Dans Genèse chapitre 37, pour Joseph, Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Et ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai encore eu un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. C'était un songe prémonitoire de l'appel que Dieu avait sur Joseph et qui s'est réalisé, bien sûr, des années plus tard en Égypte. Un autre exemple de songe prémonitoire, c'est Jacob. Genèse 46, Dieu parla à Israël, donc Jacob, dans une vision pendant la nuit. Il dit à Jacob, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Parce que Joseph ne s'était pas dévoilé à ses frères. Donc ils sont rentrés, ils ont dit à leur père, Jacob, il faut que tu descendes, etc. Bon, il y avait un mystère. Mystère voulu. Donc ils ne savaient pas que c'était Joseph qui était le premier ministre en Égypte. Donc il fallait qu'il y aille, et Dieu voulait qu'il y aille, parce qu'il y avait ce plan où Dieu allait faire une grande nation d'Israël à partir de l'Égypte. Voilà, tout le plan. Dieu avait un plan. Donc il fallait qu'il révèle son plan de manière mystérieuse au travers d'un songe à Jacob, à Israël. Vous voyez ? Pour qu'il sache que c'est Dieu qui veut qu'il descende. Sinon, il ne serait pas descendu et le plan ne serait pas accompli. Voyez-vous comme quoi Dieu utilise des songes pour faire agir, pour faire agir ses enfants. Dans Acte 18, donc c'est un exemple de Paul, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point. » Parce qu'il était sans arrêt menacé par les autorités, par toutes sortes de personnes, « On va te tuer, on va ceci, si tu parles, etc. » Et Dieu dit, « Non, non, tu parles, point barre. » Et donc il savait qu'en parlant, il ferait la volonté de Dieu, quelles que soient les conséquences. Voyez-vous, ce qui est important dans la vie chrétienne, c'est de savoir qu'on est approuvé de Dieu. Allô ? Vous voulez avoir cette conviction que vous êtes approuvé de Dieu quand vous faites quelque chose ? Eh bien, attendez-vous à des songes et des rêves et qui vont vous aider. Alors, en fait, il y a une différence entre la révélation spirituelle et l'information. Là, je vais parler d'un songe que Michel a eu. Je ne sais pas si tu veux l'évoquer, Michel, ou si je le dis rapidement. Je ne le dirai pas aussi bien que toi. En fait, Michel a eu un songe où il était dans un train, etc. Tu veux le dire ? Bon, voilà. Et en fait, il a été arrêté par des gendarmes, des policiers.
Oui, je pense que c'est important parce que ça m'a beaucoup marqué. Je ne suis pas sujette aux songes, mais... J'en ai eu deux ou trois dans ma vie, c'est pas énorme. Mais celui-là m'a beaucoup marquée parce que j'étais vraiment dans le souci parce que les deux garçons étaient hémophiles et c'était l'époque du sida. Donc, ils risquaient la mort, comme 5000 hémophiles qui sont morts à cette époque-là. Et donc, c'était pas très réjouissant. J'étais très préoccupée par ça. Et c'était la période de la création de l'Église aussi. Et j'étais un peu partagée, tout miser sur les enfants et puis ne pas s'occuper de l'Église, ou bien voilà, c'était pas évident. Et ce rêve a un petit peu ressorti ce qui était au fond de mon cœur, parce que je rêvais que j'étais dans le train Paris-Mantes, et on approchait de la gare des Mureaux, c'était très très précis, et je voyais des gens mettre une bombe dans les toilettes du train. Alors c'est très curieux parce que peu de temps après, il y a eu effectivement une bombe dans un train, dans les toilettes d'un train. Mais je ne pense pas que ça ait de rapport, mais c'est curieux. Et je ne faisais rien. Je ne prévenais personne parce que je trouvais que j'avais assez de soucis comme ça. Et je vois les gens mettre la bombe dans les toilettes, refermer la porte et le train arrive en gare et je me dis, bon, moi, je sors du train ventre à terre. Et sans prévenir personne. Et évidemment, j'étais sortie de la gare, donc là, tout le monde connaît la gare des Mureaux. J'étais suffisamment loin quand le train a explosé et j'entendais les gens dire « Oh, il y a plein de morts, il y a plein de morts, c'est horrible. » Et moi, je suis rentrée chez moi. Et le lendemain matin, dans mon rêve, le lendemain matin, les gendarmes frappaient à la porte de ma maison et disaient « Comment ça se fait que vous avez vu ?» Les gens posaient la bombe et vous n'avez rien dit, vous n'avez pas prévenu. Et ma réponse, c'était, j'ai deux enfants hémophiles, j'ai suffisamment de choses, j'ai suffisamment de soucis comme ça à penser. Et mon rêve s'est arrêté net. Je me suis réveillée en me disant, c'est pas dans mon caractère de ne pas prévenir d'un danger, c'est quoi ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et bien sûr, j'ai compris que j'avais un choix à faire. Est-ce que je continuais à vivre ma vie de foi, malgré la maladie des enfants, malgré le risque de mort, puisque c'était encore à cette époque le risque qu'ils meurent si jamais ils avaient une perfusion sale. Et donc, j'ai compris que Dieu me demandait de garder mes responsabilités, de continuer à évangéliser, de continuer à parler de Jésus, même si c'était dur, même si les enfants n'étaient pas encore guéris, etc., etc. Et je ne pouvais pas me tirer comme ça, en disant, c'est pas mon problème, j'ai assez de problèmes comme ça, je vais pas en plus m'occuper des problèmes des autres. Voilà. Donc ça m'a beaucoup parlé, et ça m'a renforcée dans l'idée que je devais continuer à servir le Seigneur, peu importe si, voilà. Bon. Alors aujourd'hui, pour vous donner quand même la fin de l'histoire, on parlait hier avec Olivier et Samuel, et disait que maintenant, avec les nouveaux produits, ils vivent une vie quasiment normale. C'est une piqûre par mois, c'est ça ? Ouais, c'est beaucoup mieux que ouais, tous les jours. Ouais. Voilà, donc c'est voilà, Dieu agit. À l'époque, je priais, Seigneur, tu guéris miraculeusement ou tu guéris par les médicaments, mais s'il te plaît, fais quelque chose. Et bon, il a choisi les médicaments, mais moi ça, eux, ça leur va très bien, ils sont très contents.
Il y a deux songes que j'aimerais vous partager. Vous l'avez déjà entendu, mais dans le cadre de cette prédication, ça illustre un peu l'importance des songes. Concernant deux crises de l'Église, donc une crise en 98 et une crise plus récente, après un mois de jeûne et prière que j'ai lancé en 98, le 5 décembre, c'est même mon anniversaire, Septembre, merci. Voilà, 5 septembre. Un mois après, jour pour jour, j'ai un songe. J'ai un songe en pleine nuit. Pour moi, ça a duré toute la nuit. Vous savez, les songes, j'ai l'impression que c'est toute la nuit. Bon, c'est certainement un laps de temps, mais pour moi, c'était toute la nuit. Je me battais avec un serpent qui voulait se mordre la queue et je le prenais pour l'empêcher de le faire. Et dans ce songe, je m'épuisais complètement littéralement parce que c'était trop fort pour moi et que les deux parties se reconnectaient sans arrêt. Et je me suis battu, transpiré tout, etc. Donc ce songe, c'était essentiellement autour de ça, un combat acharné avec ce serpent. Et finalement, à la fin du songe, je m'approche d'une rivière, pas loin d'une rivière, et je vois un pêcheur, donc celui qui pêche les poissons, un pêcheur, qui avait un énorme couteau comme ça, qui sort comme ça des buissons, qui vient et paf, qui tranche la tête du serpent. À ce moment-là, je me réveille, et là, j'ai compris qu'il y aurait une issue à ce combat dans lequel nous étions, c'était dans une crise de l'Église, et qu'il y aurait une fin heureuse, mais que seul Jésus allait le faire. Voilà, que seul Jésus. Parce que parfois, il y a des crises, vous pouvez sortir de différentes manières. Ce n'est pas un songe qu'il faut répéter à chaque fois. Le songe, à chaque fois, c'est spécifique à une situation, un événement, etc. Bon, là, je savais que je pouvais compter sur le Seigneur lui-même qui allait trancher la tête du serpent. D'une part, j'ai compris que le serpent, c'était le diable lui-même, parce que, vous voyez, par exemple, j'ai le serpent enroulé, c'est le symbole du diable, et que là, je ne pouvais pas m'en sortir. J'essayais, mais je prends juste un exemple de Job. Job chapitre 41, verset 1er, vous prenez Job 41, 42, 43, vous avez l'explication de tous les 40 chapitres précédents où Job discutait, etc. Et là, Dieu lui parle. Là, c'est Dieu qui parle. Et dit, prendras-tu le crocodile à l'hameçon ? Saisiras-tu sa langue avec une corde ? Mettras-tu un jong dans ses narines ? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet ? Te pressera-t-il de supplications ? Te parlera-t-il d'une voix douce ? Etc., etc. Deux chapitres entiers où Dieu lui montre que Satan, le diable, il a toujours la même autorité et la même puissance que ce qu'il a toujours eu. Dieu n'enlève pas l'autorité à quelqu'un. Et ça, il faut le comprendre. Si nous n'avons pas la protection du Seigneur lui-même, nous ne pouvons rien contre l'ennemi. Nous nous épuiserons, et moi je m'épuisais à trouver une solution, et il n'y en avait pas, il fallait attendre. Mais attendre, pas passivement. Et pendant un an, je me suis bagarré avec de droit, avec la clarté, avec l'autorité, avec tout ce qu'il faut, etc. Tout ce qui est utile à faire. Et au bout d'un an, donc jour pour jour, un an après, les choses se sont solutionnées. Je savais, au travers de ce songe, qu'il fallait patienter, sans connaître la durée. Le problème du prophétisme, c'est que Dieu donne des choses, mais jamais la durée. Des fois, ça peut être un jour, des fois, ça peut être un an, des fois, ça peut être 10 ans, des fois, ça peut être... Voilà. Il y a des choses qui, des fois, n'arrivent même pas dans notre vie quotidienne. Donc, ce qu'il faut, c'est dépendre du Seigneur. Mais ce qui est bien dans le songe, c'est qu'on connaît l'issue. Là, je savais, parce que le Seigneur m'a montré ça. Et donc, un an après, le 5 octobre 1999, les choses se sont arrêtées et Dieu m'avait envoyé Ricardo, donc à l'époque, pour m'aider à structurer l'Église que nous sommes aujourd'hui avec toute sa structure, et ça a permis effectivement d'établir de nouvelles choses. 20 ans après, Michel reçoit un songe. Le 5 novembre c'est juste un mois après, le 5 novembre 2018, 20 ans après. Michel reçoit un songe que vous avez tous partagé, donc je ne vais pas insister là-dessus, d'une femme avec cette fille qui était ici et qui amenait la confusion parmi les membres de l'Église. Il allait entretenir la confusion. C'est ce qu'on a connu, la confusion. Et avec ce songe, en tout cas, on l'a partagé, et nous, avec Michel, on l'a très bien interprété comme ça, que c'était d'ordre spirituel, parce qu'à l'époque, Michel est descendu avec Florence en bas, dans le songe hein, qu'elle a eu, en bas, elle a vu à l'extérieur quelqu'un avec un tuki-wuki qui donnait des ordres ici à l'intérieur de la salle. Et quand ils ont prié, Michel et Florence, paf, le monsieur a disparu, comme par hasard. Donc on savait que c'était un esprit. Dans le songe, on a interprété que c'était un esprit. Un esprit qui commande de l'extérieur vers l'intérieur, etc. Donc vous voyez, les choses étaient très très claires de ce qu'on allait vivre. Puisque là, ça n'a pas duré un an, ça a duré 4 ans, la crise. Mais on savait que c'était par la prière, par le jeûne, la prière, par simplement l'attente. Et c'est pour ça que Michel et moi, on sait très bien que c'est d'ordre spirituel ce qu'on a vécu. Premièrement, spirituel. Bien sûr, il y a eu d'autres choses qui se sont mises là-dessus, mais voilà, on est dans un combat, toutes les églises sont dans le combat, nous, c'était ce combat-là. Et comme je savais que c'était la prière, à un moment donné, je me suis rapproché de Charles. Parce que Charles m'a fait un aveu, à un moment donné, que je ne savais pas, que tous les matins, il se levait à 4h du matin pour prier. Tous les matins. Même s'il est malade, c'est bien ça, Charles. Hein, voilà. Bon, quand il m'a dit ça, le Seigneur m'a dit, ah, tiens, dans l'église, il y en a un que tu dois contacter, parce que c'est lui qui aura une clé dans la prière. Donc, je t'ai demandé de venir, c'était le mois de juillet ou août, je ne sais plus. Enfin, dans ces eaux-là. Bon. Et on s'est rencontrés. Et là, j'ai vu qu'il avait des clés. Je ne vous révélerai pas les clés ici, ça fera l'objet d'un module de formation dans l'école du phare. Ça vient de l'Afrique, il y a beaucoup de choses qui viennent d'Afrique, etc. Enfin, on est interconnectés, si vous voulez. Hein. Le prince du monde, c'est le prince du monde. Voilà. C'est l'Afrique, le machin, etc. Il y a des axes de puissance. Et donc, à partir de là, j'ai dit, écoute, Charles, continue à prier, comme tu le fais, mais prie spécifiquement pour cette situation que nous vivons, pour que ça s'arrête. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Dieu a utilisé Charles, parce que justement, il était dans la prière, il était dans cette mouvance de la prière, il a utilisé Charles pour arrêter la confusion qui était au milieu de nous, le 9 octobre 2022. Et avec une autorité que lui-même était étonné qu'il avait, c'est le Saint-Esprit hein, qui t'a utilisé, eh bien, on a fait le choix d'Oscar. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que moi, je voulais depuis des années transmettre le pastorat, parce que cette église n'a jamais eu d'autre pasteur que moi, puisque c'était une église pionnière, elle n'existait pas. Donc, il fallait transférer à quelqu'un d'autre, pas être éternel. Et puis, moi, j'ai d'autres choses qui m'attendent, en particulier le centre apostolique. Donc, je voulais qu'il y ait un pasteur. Et là, on a pu voter l'adoption d'Oscar. Et là, tout s'est arrêté. Voilà. Tout s'est résolu, je dirais. Bon. Il y a eu des conséquences, mais ce qui est important, c'est de savoir que la confusion s'est arrêtée parce qu'il y a une clarté d'autorité qui s'est manifestée sur le choix de ce que Dieu a voulu. Et moi, je sais que Dieu a voulu qu'Oscar soit à cette place. Sauf que je ne pouvais pas l'imposer. Je l'avais déjà fait 6 mois avant, bon, personne n'était d'accord, enfin le CDD, c'était pas ça, quoi. Hein. Voilà. Il y avait des refus. Je ne pouvais rien faire. La confusion était totale. Dieu a utilisé Charles, parce que c'est un homme de prière, et on a prié pour ça, et le jour où c'est arrivé, ça s'est débloqué. Après, Dieu a continué à agir parce que une fois que la crise première est passée, eh bien Dieu a utilisé Constant, qui est là aussi aujourd'hui, et qui lui, d'un seul coup, comprend la vision du phare, qui elle était enterrée. Parce que même le Garvin qui a fait la réécriture de la vision n'a jamais évoqué le phare, qui en fait est une continuité depuis 500 ans de la vision que Dieu a pour cette église, enfin pour cet endroit. Et voilà. Et les choses se sont résolues. Et donc là, aujourd'hui, on est sur une autre dynamique, si vous voulez, d'église. C'est la continuité de l'église d'Aubergenville, mais avec des personnes où il veut faire de vous des leaders. Leader. Leader, ça ne veut pas dire un chef. Leader, ça veut dire qui porte la vision et qui influence avec la vision. C'est pour ça que c'est tellement important, l'enseignement que je donne dans le séminaire sur la vision. Parce que si vous comprenez ça, comme Constant l'a compris, ensuite, après, Charles, bien sûr, l'a compris aussi, parce qu'on a fait un trio, et on a communiqué, on a parlé, on a prié, etc. Voilà. Et petit à petit, eh bien, cette vision qui est celle du Seigneur, pour cette Église, eh bien, peut se réaliser, se manifester. Voilà. Donc, pour montrer que deux songes, qui étaient extrêmement précis, sans donner de durée, la première un an, la deuxième 4 ans, hein, il a fallu attendre 4 ans de patience pour voir la fin de la crise, mais on savait l'issue, que l'issue serait celle que le Seigneur avait prévue. Alors, une différence, je vais terminer avec le pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu utilise les rêves ? Eh bien, parce qu'il y a une différence entre information et révélation. Notre cerveau, notre être humain, que nous sommes, nous avons un souffle, le souffle dans notre âme, eh bien, marche comme un ordinateur avec des informations, ce qu'on appelle des data, récoltées dans notre environnement naturel. Vous regardez un bébé, bah, petit à petit, il évolue parce qu'il y a de plus en plus d'informations avec les yeux, avec le regard, avec la parole, machin, etc. Puis il se construit comme ça. C'est l'être humain au niveau de l'âme. Donc il faut des informations. Mais Dieu veut révéler des choses que nous ne voyons pas dans notre environnement. Voyez-vous, c'est ce que j'appelle les mystères. Parce qu'il n'y a pas que ce qui existe, ce qu'on voit qui existe. Il y a des choses qui sont invisibles et qui existent aussi. Et ça, Dieu veut le révéler par son esprit. Donc on a besoin de révélation. Révélation. Et ça, c'est par notre esprit que nous l'avons, pas par notre âme. Ce qui nous est caché, mais qui existe et nous empêche d'avancer. Quand nous sommes chrétiens et que nous n'avons pas de révélation, mais nous n'avançons pas. Nous n'avançons pas dans notre vie chrétienne. Et il le fait par l'esprit. Et l'esprit, nous est-il dit, elles sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Donc en fait, si vous cherchez Dieu, et je sais que tous ici vous cherchez Dieu, eh bien, il faut compter sur l'esprit qui va vous révéler les profondeurs de Dieu pour que vous puissiez être un chrétien en profondeur et pas en superficie. La révélation, c'est plus que de l'information, c'est l'accès au mystère de Dieu. Et là, il utilise les rêves et les songes, la parole, les paroles prophétiques, les paroles de connaissance, la conscience, la communion, etc. Bon, ça fera partie d'un module de formation là-dessus. Et par exemple, un prédicateur comme Georges Moody, l'année dernière, il a donné une parole prophétique incroyable, qui ne connaissait pas notre situation. Il a dit, les portes du séjour des morts ne prévendront pas contre cette église. Voilà, donc il a prophétisé qu'effectivement l'ennemi allait être terrassé. Et c'est ce qui s'est passé quelques mois après. Voilà, donc c'est les paroles prophétiques que Dieu utilise par des serviteurs, et il faut bien écouter. Pour moi, j'ai bien compris que Dieu utilisait Georges Moody. Et là, cette année, il a réutilisé en disant « allons de l'autre bord ». C'est-à-dire, c'est le projet. C'est pour ça que j'ai montré après la vision du bateau, qui fait partie de ce que le Seigneur m'a montré il y a 20 ans, que c'est un bateau dans lequel nous sommes. Et ce bateau, il a commencé il y a longtemps, il y a 500 ans déjà. Et donc, il a été arrêté dans un port, mais il repart, etc. Voilà. Et donc, il utilise aussi les prédicateurs. Et c'est ce que prophétise Joël. Dans les derniers jours, il y aura des visions, etc. Mais ces révélations ne viennent pas de l'intérieur. Parce que l'intérieur de nous, c'est des datas, c'est des informations. Donc les informations, ça ne peut produire que les mêmes informations qui sont rentrées. Dans un ordinateur, vous pouvez sortir que ce que vous avez rentré dedans. Mais le Saint-Esprit, c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient en nous, nous révéler des choses pour que nous puissions les appliquer. Alors, c'est le fameux modèle de l'esprit, de l'âme et du corps. L'esprit, l'âme et le corps, on peut, le mystère du Saint-Esprit, on peut l'imaginer comme un œuf. Voyez-vous, un œuf. Un œuf de poule, vous le coupez en deux, vous avez ça. Vous avez le jaune et vous avez le blanc. D'accord ? Bon. Si cet œuf n'est pas fécondé, c'est un œuf, vous le mangez et tout ça. Voilà. S'il n'est pas fécondé, eh bien, c'est comme l'esprit que vous avez reçu qui ne peut pas croître en vous. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit fécondé. Tous, à l'origine de l'humanité, enfin de quelqu'un qui naît dans ce monde, il reçoit un esprit. Mais l'esprit n'est pas fécondé. Donc l'esprit, l'âme et le corps, est le pendant de tout être humain, de tout bébé, de tout, etc. Il faut que l'esprit soit fécondé. Alors quand l'esprit est fécondé, qu'est-ce qu'il donne ? Eh bien, il donne un poussin. Voyez-vous ? Quand il est fécondé, il y a la vie qui se produit. Il y a un embryon qui va se mettre en route, et après, il peut faire exploser la coquille, et puis la vie peut apparaître. Est-ce que l'image, ça vous parle ? Voilà. Eh bien, l'esprit que nous reçoit, et qui doit être fécondé, on verra tout à l'heure comment il va être fécondé, eh bien, va donner naissance à une vie spirituelle et à la manifestation de cette vie de l'esprit au travers de tout ce que j'ai évoqué, des signes, des miracles, des prodiges, des guérisons, etc. Un œuf fertilisé, c'est comme l'esprit qui ne peut pas grandir car il n'est pas fertilisé, et une nouvelle vie doit commencer, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alors comment se passe la nouvelle naissance ? Donc là, vous avez le corps, vous avez l'âme, et vous avez l'esprit. Et l'esprit doit être fécondé par l'Esprit de Dieu. Et donc le don de l'esprit, c'est de venir pour que cet homme qui a un esprit qui est mort, si vous voulez, qui n'est pas fertilisé, eh bien, il reçoive des choses qu'il n'a jamais vues, qu'il n'a jamais entendues, des choses qu'il ne connaît pas. Ce quand on est de nouveau. Moi, qui jusqu'à 20 ans aimait le Seigneur, était chrétien, était engagé, etc. Mais je n'avais pas la nouvelle naissance. Quand la nouvelle naissance est venue dans ma vie, c'était une explosion de lumière. Un peu comme Paul, j'étais ébloui par la lumière du Saint-Esprit et surtout de la parole, ou la puissance de la parole m'a agressé. Donc, vous voyez, le don du Saint-Esprit, c'est de fertiliser l'esprit, de lui donner vie, de lui amener une vie de l'esprit, de l'extérieur vers l'intérieur. L'âme, elle échange avec le monde, comme je le disais, c'est des data. Et c'est pour ça, être proche, par exemple... des choses du monde, je dirais, faire attention à ce qu'on écoute, eh bien, ils vont produire quelque chose dans notre âme qui va être de l'ordre d'une épaisseur. Ils vont épaissir les datas que nous avons dans notre âme pour empêcher de recevoir les dons de l'esprit de l'extérieur. Et pourquoi les Français, dans le monde entier, les missionnaires le savent, quand ils viennent en France, on les enseigne en disant, attention, quand vous allez en France, il y a une échelle entre plus 10, c'est vraiment ceux qui connaissent le Seigneur, 0, c'est neutre, et moins 10, c'est des gens qui ne connaissent pas du tout Dieu, qu'il faut évangéliser, etc. Ils ont dit, en France, vous êtes à moins 12. C'est-à-dire qu'il faut commencer encore avant. De tous les autres pays, c'est avant. Pourquoi ? Parce que l'épaisseur de l'âme a tellement épaissi avec la raison, l'idole de la raison, que ce soit Minerve, Athéna, tout ce que vous voulez, qui est à Paris et qui rayonne sur la France, que en fait, l'esprit est là. S'il reçoit la révélation, les Français peuvent être des gens extraordinaires dans l'évangélisation. On a eu dans le passé des missionnaires extraordinaires. Mais il faut casser cette épaisseur de l'âme. Parce que la chair, ce qu'on appelle la chair, c'est l'épaisseur de l'âme qui empêche de recevoir les choses de l'esprit. Et nous sommes tous sensibles à cette épaisseur de l'âme, plus nous sommes enclins aux choses du monde, je dirais, eh bien, plus cette épaisseur de l'âme s'amplifie et nous empêche. Donc, il faut qu'il y ait des échanges avec le monde spirituel, avec Dieu, où on reconnaît les choses de Dieu, y compris les choses profondes de Dieu. Et ce n'est pas des informations, ce sont des révélations pour nous. Et c'est comme ça que j'explique que Constant, qui est là ce matin, il a compris la vision. Je ne sais pas comment, lui-même ne le sait pas, il n'arrive pas à m'expliquer, voilà, mais c'est une révélation, hein, Constant. C'est une révélation. Pourquoi Dieu a choisi Constant, j'en sais rien, il a choisi Ricardo avant. Bon. Dieu fait ce qu'il veut. Ce que je vois, c'est que je constate qu'effectivement, quand on a une révélation, on ne peut plus revenir en arrière. Parce qu'on sait, qu'on sait, qu'on sait. C'est les profondeurs de Dieu, les profondeurs des choses de Dieu. Donc même si l'âme est autour, eh bien, il faut que l'âme, elle casse. Alors il y a une chose que je vais terminer là-dessus, je vais prier pour ça, pour vous aider, si vous avez envie de mieux connaître Dieu, si vous avez envie de recevoir les mystères de Dieu, les choses inconnues que vous ne connaissez pas et qui vont vous éclairer, eh bien, il y a une chose à faire. Alors, je termine juste par le songe. Hein. Dieu utilise des songes pour nous parler, voyez-vous, dans la nuit. Il envoie des messages, hein, il parle par des rêves, des mystères, vous voyez des choses à l'envers, des trucs, etc. Voilà. Donc il faut les interpréter. Il y a l'échange avec l'inconscient qui est visité par l'esprit, etc. Voilà. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre et je vais faire une école là-dessus pour vous aider à bien comprendre ces choses-là. Mais c'est pour nous aider à recevoir des messages de Dieu. Et parce que la nuit, vous ne pouvez pas raisonner. Est-ce que vous raisonnez la nuit? Peut-être vous comptez les moutons pour dormir, mais une fois que vous avez compté les moutons, vous n'allez pas... Peut-être vous allez résoudre des problèmes mathématiques, je ne sais pas, Charles, peut-être le lendemain matin, il a trouvé des solutions mathématiques. Je ne sais pas, parce que le cerveau, il bouge. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas raisonner. Quand Dieu vous parle par un rêve, vous ne pouvez pas dire « Ah non, parce que ceci, cela... » Donc même les Français, ils ne peuvent pas raisonner, parce que le rêve, le songe, ça se passe... par une révélation directe où Dieu vous parle par un songe. C'est pour ça qu'il utilise les songes. Pour passer au travers de l'âme. Parce que dans la journée, votre âme va résister. S'il vous parle... Alors, bien sûr, je sais que John Wimber nous parlait de certaines personnes qu'il connaissait, qui étaient tellement sensibles, parce que cette âme était pratiquement inexistante, que Dieu leur parlait directement en permanence. Mais en tout cas, ces gens-là ne pouvaient jamais sortir de chez eux, parce que dès qu'ils sortaient, ils étaient agressés par le péché. Donc en fait, il y avait, c'est des personnes particulières, hein, il n'y en a pas 36, il n'y en a pas beaucoup, mais il y avait quelques-unes, personnes qui l'allaient voir comme ça, qui recevaient directement des choses. Quand on a des ministères à ce niveau-là, il faut aussi avoir des gens qui nous entourent. Donc ça, c'est l'exception. Mais ça prouve, ce que je viens de vous dire, c'est que l'âme, elle résiste à cause des raisonnements à ce que Dieu nous parle. Donc dans la journée, c'est très difficile. Quand on reçoit petit à petit des choses, on commence à discerner comment Dieu parle. Rappelez-vous Samuel, Dieu lui a parlé, il n'a pas compris. Une fois, deux fois, trois fois. Et Élie lui a dit non, c'est Dieu qui te parle. Voyez-vous, il faut un certain temps d'adaptation pour savoir que c'est Dieu qui nous parle. Et pour cela, il y en a besoin d'émondage, d'émonder. Vous connaissez très bien le principe d'émondage. Quand vous avez un arbre fruitier, si vous le laissez partir dans tous les sens, il va faire beaucoup de branches, beaucoup de choses, parce que la sève part un peu partout. Mais si vous voulez un arbre fruitier en particulier qui est palissé, hein, des beaux vergers, je sais que Marie-France est dans le verger d'Orgeval qui produisait les meilleurs fruits pour Louis XIV, enfin pour les rois. Hein, donc des belles pommes, des belles poires, des beaux... C'est les abricots, je crois, chez toi, etc. Voilà. C'est ça, hein. Des poiriers, etc. Eh ben, il faut couper. Vous voyez, parce que si vous coupez... Si vous coupez, juste, bon, il faut savoir couper, hein, si vous coupez au bon endroit, eh bien, le fruit qui est là, il va prendre toute la sève et il va faire des beaux fruits. Voyez-vous ? Et ça, c'est le principe de l'émondage. Et si vous voulez recevoir ces révélations du Seigneur, il faut que vous vous laissiez émonder. Et ça, c'est pas agréable. Vous êtes d'accord ? C'est pas agréable, se laisser couper. Voilà. Mais c'est le seul moyen que le Seigneur il a. L'être va être transformé si l'âme se brise pour laisser place à l'esprit. Le problème, c'est qu'il y a des blessures dans l'âme qui nous empêchent de nous laisser émonder. Donc on a peur, parce qu'on a peur que ça revienne, etc. Donc, bien sûr, il y a beaucoup. C'est pour ça qu'on s'est équipé dans l'Église avec le ministère des maisons d'Élie, pour aider les gens à guérir, de manière à ce qu'ils puissent mieux servir le Seigneur. Jésus, à Gethsémané, il a eu ce moment où il a failli ne pas y arriver. Et il a prié son Père. Il a dit, mon âme, ma volonté, ma pensée, etc. Il n'y arrive plus. Aide-moi, Père. Aide-moi. Là, il était au bout de ses capacités humaines, parce que c'était un homme à ce moment-là, c'est le fils de l'homme. Mais pour montrer que l'âme, quand vous devez faire un pas pour servir le Seigneur, hein, plus vous avez de responsabilités, plus c'est dur, plus Dieu va vous demander d'être émondé. Et Jésus a crié au Père en disant « Aide-moi, parce que mon âme, elle est au bout. » Et Dieu veut nous émonder pour que la sève porte des fruits en nous. En 98, là je parlais du premier songe, j'ai fait plus de progrès que dans toute ma vie, depuis le départ, quand je me suis converti en 1967, que n'importe quand, parce que mon âme a été totalement brisée. Et quand c'est comme ça, le Saint-Esprit rentre, le Saint-Esprit passe, le Saint-Esprit nous parle. Et c'est là qu'on est formé le plus. Je ne l'ai pas cherché, cette épreuve, mais cette épreuve m'a complètement formé spirituellement. Je ne voyais pas avant des choses. La mère de Michel, elle voyait des choses, etc. Je dis, mais comment tu fais, etc. Et ben là, j'ai commencé à voir dans le monde spirituel, j'ai commencé à comprendre, j'ai commencé à, tout s'est ouvert, j'ai vu des choses, je vois des choses, aujourd'hui je vois les choses qui se passent dans le monde spirituel. Voilà. Et donc je peux enseigner, je peux vous aider. Et ce sera eh bien, l'occasion de ces écoles du phare. Est-ce que vous êtes prêt à vous laisser émonder davantage ? Pour mieux le connaître. Quels sont ceux qui voudraient qu'on prie pour eux ? Simplement lever la main. Je vous demanderai de vous lever. Et je vais prier pour que le Seigneur puisse vous émonder, puisse nous émonder, pour accéder à de nouvelles révélations. Pour que cette chair qui est là, cette âme qui est là, qui vous empêche, c'est un choix douloureux, hein ? C'est vrai. Parce qu'il faut accepter d'être brisé. Mais le résultat est extraordinaire. C'est que vous deviendrez des hommes et des femmes de Dieu qui seraient utilisés par le Seigneur comme des vases d'honneur. Amen. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui se sont levées, bien sûr pour toute l'Assemblée, qui à un moment donné fera aussi ce choix. Seigneur, nous voulons nous laisser émonder. Émonder, Seigneur, pour que cette fécondation puisse porter du fruit, Seigneur. Tu as déjà émondé, tu as déjà fécondé, Seigneur, ces personnes qui se sont approchées de toi pour t'accepter dans leur vie. Mais Seigneur, voilà, ils veulent plus, ils veulent plus. Ils veulent, Seigneur, recevoir ces visions, ces révélations, être instruits dans ces mystères qui ne sont pas des informations, mais des révélations. Seigneur, tu vas leur donner d'entendre, de voir des choses, Seigneur, qu'ils n'ont jamais vues avant, Seigneur, pour qu'ils puissent vraiment te servir pour ton royaume. Seigneur, je te prie de les bénir. Je te prie de toucher ces personnes comme Pierre, tu l'as touché, et même son ombre a guéri les malades, Seigneur. C'est tellement puissant que, Seigneur, des personnes qui se laissent émonder par toi, tu peux les utiliser pour ta gloire. Et Seigneur, je te prie que ces personnes reconnaissent que quand ils parlent à quelqu'un, ils sont différents. Et quand il y a cette gloire qui va les entourer, comme ça a été pour Moïse, Seigneur, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils ont ? Et simplement, ils vont poser des questions, et l'évangélisation sera nettement plus facile, parce qu'ils répondront simplement à des questions. Mais comment ça se fait que vous avez un visage si lumineux, si extraordinaire? Voilà, parce que leur âme a été brisée. Et Seigneur, tu les remplis de ton esprit. Seigneur, je te prie de les bénir et de nous bénir en tant que communauté, afin que nous puissions, Seigneur, avancer dans les choses de l'esprit, que nous puissions, Seigneur, faire des progrès spirituels, mais Seigneur, que nous puissions accepter les mondages, qui est un processus douloureux, c'est vrai, mais Seigneur, il en vaut la peine. Et je te demande de nous aider tous, Seigneur, à rentrer dans ce processus pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen, amen.